Nous sommes heureux d'accueillir avec nous, au milieu de nous, notre frère Benoît Wilmers, qui fait partie de la province d'Europe occidentale francophone, voilà, de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire qui regroupe la Belgique, le Luxembourg et la France, plus la Grèce aussi, l'île Maurice, la Réunion, enfin bref, voilà, quelques petits satellites. Et il pourra se présenter un peu plus lui-même de peut-être quel type de ministère, de service apostolique il a pu vivre déjà, puisqu'il a une quinzaine d'années de Compagnie de Jésus derrière lui, et il est dans ce que nous appelons chez nous la dernière étape de la formation, et oui, pour faire un jésuite, il faut du temps, qu'on appelle le troisième an. Le troisième an, c'est aussi cette étape que notre cher Claude Lacolombière vécut juste avant d'arriver à Paray-le-Monial. Et alors du coup, Benoît qui, venant de ce troisième an, il est donc en cours de cette étape de formation, il est venu pour quelques semaines ici à Paray-le-Monial. Il s'est plongé dans la vie de Claude qu'il ne connaissait guère jusque-là, et il va nous faire part donc de quelques richesses, quelques pépites qu'il a trouvées pour lui et qui sont certainement bonnes aussi pour nous aujourd'hui. Donc merci à toi Benoît d'être au milieu de nous, de partager avec nous ces semaines et de pouvoir nous introduire dans cette belle fête de notre cher Claude Lacolombière.
Merci Xavier. Tout d'abord bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous écoutent sur la radio, bonjour mes sœurs. Je ne sais pas si je vais rajouter beaucoup de choses à la présentation déjà bien fournie que Xavier a fait de moi. Donc, je suis effectivement arrivé à Paray il y a quelques semaines. Effectivement, je découvre Claude. Je présuppose que la conférence ici était un piège tendu par mes compagnons pour m'obliger à le connaître. Et c'est bien. C'est très bien. Que dire ? J'ai principalement travaillé dans l'apostolat des jeunes, à Bruxelles, en aumônerie d'université à Namur. J'ai aussi travaillé pour la proposition des jésuites qui s'appelle Prie en chemin, qui est une proposition de prière au quotidien. Et puis, il y a plus longtemps, j'ai travaillé auprès des migrants en détention dans les centres fermés, comme on appelle ça en Belgique, auprès des demandeurs d'asile. Voilà, comme ça vous avez une petite idée du bonhomme. Mais on est avant tout là pour Claude. Comme le disait Xavier, je suis en train de faire ce qu'on appelle le troisième an. Et du coup, je vais me servir un peu du troisième an comme grille et porte d'entrée pour cette présentation de Claude. C'est peut-être utile de commencer par reprendre ce que disent nos constitutions, c'est-à-dire les règles des jésuites, sur le troisième an. À quoi ça sert ? Quelle est la visée du troisième an ? Pourquoi est-ce qu'au bout de 15-16 ans, on retire les bonhommes à leurs travaux, à l'endroit où ils sont si utiles, en général, pour leur donner, pour Claude ça a été 4-5 mois, pour moi ce sera 8-9 mois, de break, de réflexion. L'article 516 de nos constitutions dit que, après la fin des études, on enverra les compagnons à une école du cœur. Et rien que cette expression-là dit bien la visée profonde. Après avoir formé l'esprit, après avoir aussi généralement fait travailler un peu les compagnons, il y a une reprise nécessaire qui doit s'inscrire en profondeur, dans les profondeurs de l'être. Et l'article continue en décrivant ce qu'on attend de cette école du cœur. Il s'agit avant tout de développer l'humilité et l'abnégation, c'est-à-dire de faire décroître l'amour des choses sensibles, de faire décroître l'attachement qu'on peut avoir à son propre jugement, à son propre amour propre, à tout ce qui nous ancre vers nous et qui nous empêche d'aller vers le Christ, et au contraire de faire grandir la connaissance et l'amour de Dieu. Et il y a un but, comme toujours dans la compagnie, qui est de permettre aux compagnons, ayant ainsi progressé, dit le texte, de faire un pas pour mieux aider les âmes auxquelles on sera par la suite envoyé. La progression vécue au troisième an doit aider à faire vivre une progression semblable ensuite à d'autres. Il n'y a pas de visée égoïste dans la compagnie. Je pense que si on veut appliquer cette grille de lecture à Claude, il faut peut-être d'abord voir dans quel état d'esprit se trouve Claude au début de son troisième an. Et pour ça, peut-être très brièvement revenir sur les premières étapes de sa vie dans la compagnie. Comme vous le savez sans doute, Claude a quitté sa famille assez jeune, à 9 ans, pour commencer ses études dans un collège jésuite à Lyon, d'abord au petit collège, puis au collège de la Trinité. Il s'est initié à la philo. Ses profs reconnaissent très vite que c'est un élève brillant, doué. Et il entre au noviciat des jésuites à 17 ans, en 1658, à Avignon. De nouveau, reconnaissance de ses formateurs comme de quelqu'un dont on peut attendre beaucoup. À la suite du noviciat qui dure 2 ans, il finit sa philo, et puis tout de suite il devient professeur. Il accompagne un groupe d'étudiants à travers leurs études. Et de nouveau, il est remarqué. Ses provinciaux sont conscients de sa valeur. Même le général à Rome entend parler de lui et insiste pour qu'il soit envoyé aux études à Paris. Donc on l'envoie à Paris en 1666, où il restera 4 ans. Il fait sa théologie. Il continue à se faire remarquer. On lui confie l'éducation des enfants de Colbert un temps. Et quand il revient à Lyon en 1670, on lui confie tout de suite une classe, on dirait aujourd'hui de terminale, à l'époque on parlait de rhétorique, au collège de la Trinité, qui était un collège prestigieux de la compagnie à l'époque. Et en plus, les classes de rhétorique, c'est ce qu'on réservait aux pères les plus expérimentés normalement, ceux dont on savait qu'ils pouvaient conduire les jeunes à quelque chose de solide. Et puis même 3 ans plus tard, on retire à Claude sa charge de professeur, mais pour lui confier une charge de prédicateur à l'église du collège. Je crois qu'on a peut-être perdu aujourd'hui le sens de ce que ça veut dire. À l'époque, les prédications, c'est peut-être le poste le plus glorieux au sein de la compagnie. Dans une époque où la parole a un poids lourd, où à Paris, Bourdalou et d'autres sont des espèces de superstars, être en charge de la prédication, c'est vraiment pour un jeune jésuite comme Claude une reconnaissance tout à fait insigne. On reconnaît vraiment les valeurs du bonhomme. Et c'est après cette année qu'il est invité à faire son troisième an, c'est-à-dire pendant 4 mois, à aller vivre dans une communauté un peu plus à l'écart, revivre sa retraite des 30 jours, se poser un peu des questions sur sa manière de vivre, sa manière d'être avec le Seigneur, et vers où ça va le mener. Quelques années plus tard, quand il se prépare à une autre retraite en Angleterre, il écrira que, au moment du troisième an, il était dans une disposition avant tout de crainte. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est la crainte qui l'habite? Tout d'abord, il faut bien se rendre compte que dans les écrits du temps du troisième an, il n'y a pas que de la crainte, bien que là, bien loin de là. Le sentiment dominant dans ces textes, c'est avant tout une volonté bien ancrée et assez incroyable de se perfectionner, voire même, il a le culot de dire, de me faire saint. Je pense qu'on est souvent très, très hésitant dans nos vies spirituelles. On dit, bon, je vais faire des progrès, je vais m'améliorer, je vais aller un peu plus loin. Claude, lui, saisit tout de suite l'essentiel. Je veux me faire saint. pas d'une sainteté qui brille, pas d'une sainteté qui veut se montrer aux hommes, une sainteté toute modeste, mais d'autant plus ancrée. Et c'est vraiment ce qui l'habite avant tout. Quand on lit les textes, il veut se donner au Seigneur. C'est ça, sa recherche. Et il le dit avec assez de candeur par endroits, il est en bonne voie. C'est-à-dire, il est entré dans un style de vie où il est fidèle aux règles de la compagnie, fidèle aux règles de charité, il est pas en train de se perdre, hein. C'est quelqu'un qui est sur la bonne voie. Et c'est peut-être ça, en fait, qui alimente sa crainte. Il regarde ce qui lui arrive, les missions qu'on lui confie, la manière de les exercer, et il prend conscience de deux choses. La première chose dont il prend conscience, c'est qu'il est facilement attaché aux choses du monde, à en fait tout ce qu'il rencontre autour de lui qui l'intéresse, que ce soit les rencontres avec les personnes qu'il fait, la manière de vivre. Très vite, tout ce qui est bon et qui n'est pas de l'ordre du péché, ça l'intéresse, c'est un esprit curieux. Et le risque, c'est peut-être de passer de cet esprit curieux à un esprit qui peu à peu s'éloigne de Dieu. Le deuxième risque qu'il voit pour lui-même, c'est que finalement, le succès lui monte à la tête. Il n'en est pas encore là, mais il voit bien qu'il y a une tension à peu près inéluctable entre ce qu'on lui demande et ce qu'il est. On lui demande de prêcher, d'apparaître en public, dans la mesure du possible de toucher les cœurs. Et visiblement, ça porte du fruit. Le danger devient, mais est-ce que je ne vais pas prendre à mon compte ce succès? Est-ce que je ne vais pas petit à petit prendre pour moi tous ces dons que j'ai reçu du Seigneur et que je suis en train de mettre en œuvre. Et petit à petit, de me laisser détourner de cette attitude que je voudrais avoir vis-à-vis du Seigneur pour ramener les choses à moi. C'est ce qu'on appelle la vaine gloire, cette tendance à rapporter à soi ce qu'on voudrait rapporter à Dieu. Il y a une troisième crainte qui transparaît à travers les écrits de Claude, c'est la crainte de l'affadissement. Il s'observe, il observe les jésuites autour de lui. Je pourrais dire, je m'observe et j'observe mes confrères. On entre avec des grandes ambitions de se rendre utile, des grands désirs d'apprendre à connaître le Christ, et puis la routine s'installe. La prière devient plus fade, le quotidien s'impose. Claude a une très belle phrase où il dit que finalement, on dit souvent aux novices, tout ce que vous vivez, ça aura se transformer, vos élans, ça devra se calmer. Et il dit pas du tout. Oui, il y a d'autres vertus qui seront nécessaires à acquérir. Certaines prudences, une certaine sagesse, certainement. Mais cet élan que vous avez en vous vers le Seigneur, ça, il faut le garder vivant. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit avec lequel Claude entre dans le troisième an, entre dans sa retraite de 30 jours, et prenons simplement les différents points qui sont proposés au tertiaire pour entrer dans ce qui se passe. La première visée du troisième an, je le disais tout à l'heure, c'est faire grandir l'humilité et donc faire diminuer l'amour des choses sensibles, faire décroître le jugement et la volonté propre. Alors, cette vocation à un certain effacement, d'une certaine façon. Il faut d'abord le resituer dans le contexte le plus large qui soit, qui est celui de la vocation de toute vie religieuse. Fondamentalement, comme religieux, et je pense que les sœurs pourraient en dire bien plus que moi là-dessus, la vie religieuse a une dimension de prophétie, a une dimension de manifester au monde certaines choses. Et ce renoncement à ce qui nous fait plaisir, ce renoncement à être le maître de mon destin en toute chose, cela veut avant tout manifester que l'essentiel, c'est pas mon plaisir, c'est Dieu. L'essentiel, c'est pas ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Et ça, Claude le vit avec force, mais en cela, il ne fait qu'être fidèle à sa vocation de religieux. Il y a un deuxième ancrage dans cette vertu d'abnégation qui est plus propre peut-être, ou qui est vécu de manière forte au sein de la compagnie. Nous sommes avant tout destinés à être envoyés en mission, à chercher comment faire la volonté de Dieu. Et pour cela, il y a à nous rendre, excusez-moi de l'expression, indifférents à toute chose. Indifférents à tout sauf à Dieu. Et pour ça, prendre distance avec tout ce qui nous attache. La recherche des bonnes choses, ça c'est pour l'extérieur. Et puis aussi mes propres envies, mes propres façons de juger, mes propres façons finalement de considérer que mon avis vaut plus que celui de mon supérieur et de mes frères. Je vous assure que ce ne sont pas des mots vides, le nombre de fois qu'on juge ses supérieurs. Et donc, Claude, dans ses textes, manifeste vraiment un attachement très vif à cette idée. Si il veut se rendre utile, il a à se dégager. En rester là, ce serait quand même trop court. Cet attachement, cette volonté de détachement, cet attachement à Dieu, ce détachement aux choses et à moi-même, cela ne peut se comprendre, s'inscrire que dans un amour profond pour le Christ. On ne choisit pas de soi-même ce détachement, ça n'a pas de sens. Cela naît d'un attachement au Christ. C'est la réponse à un amour. Et c'est vrai de toute vocation religieuse, ou ça devrait l'être, mais chez Claude, ça prend un poids tout particulier. C'est-à-dire que là où d'une certaine façon on pourrait considérer de manière un peu instrumentale ce détachement comme un outil en vue d'un discernement plus juste de la volonté de Dieu, Claude va vraiment vivre ce don de ce qu'il est, ce don de ses expériences, le don de son intelligence, de son jugement, comme partie réellement intégrante de l'amour qu'il veut rendre à Dieu. Alors, de nouveau, en soi, ça s'inscrit dans une longue tradition des jésuites. Hein. À la fin de la grande retraite, saint Ignace nous propose de prier une prière qui commence par « Prends et Seigneur et reçois toute mon intelligence, toute ma volonté, toutes mes forces, toute ma mémoire, de ne rien garder pour nous. » Il y a de ça, certainement, chez Claude. Mais Claude, là où nous avons, pas, en tout cas je parle pour moi, parfois un reste de réticence quand nous disons ces mots, je me rends bien compte que je ne suis pas tout donné, Claude les prononce avec enthousiasme. C'est comme ça qu'il veut vraiment aimer Dieu. Il ne veut rien garder pour lui. En cela, il est certainement le fils de son temps. C'est-à-dire, à l'époque, toute une partie de la spiritualité insistait beaucoup sur cet amour complètement désintéressé de Dieu. Et Claude va entrer dans ce mouvement-là. Tout est pour toi, Seigneur. Je te donne tout. Et il n'est pas question de garder quoi que ce soit pour moi. Il va aller très loin là-dedans. Certains diront presque trop loin, mais à une âme qui aime, il est difficile d'aller trop loin. C'est-à-dire que Claude va même dire « Toutes ces expériences sensibles, positives que je peux recevoir dans la prière, ces sentiments de consolation, ces sentiments de facilité dans la prière, ces sentiments qui me consolent quand je me tourne vers toi, Seigneur, même ça, je suis prêt à te le donner, à le sacrifier. » Ce qui anime Claude, c'est la recherche d'un amour qui soit le plus désintéressé possible face à Dieu. Il a parfois un peu peur que ce qui l'attire vers la prière, ce soit ce qui l'en retire en fait, ce qui d'une certaine façon lui fasse plaisir. Et de cela, il ne veut pas. Il préférerait, il le dit à plusieurs reprises, vivre dans un état où les tentations sont là, où le doute est là, pour que vraiment son amour soit ça dégagé de toute possibilité de retour sur lui-même. C'est une conception très exigeante de l'amour que développe Claude, mais ça répond en lui à un besoin de solidité. Il ne veut pas que l'amour qu'il a pour le Christ soit quelque chose qui dépende de ce qu'il reçoit sur le moment. Il ne voudrait pas que l'amour qu'il a pour le Christ soit quelque chose de fluctuant. Non. Il cherche le roc. Il cherche le solide, au-delà des sentiments du moment. On reviendra là-dessus parce qu'il y a quand même des nuances à apporter. Cette volonté chez Claude de tout donner au Seigneur, je disais, naît de l'amour, naît de cette recherche de solidité, naît de cet ancrage dans la tradition de la compagnie. Mais il y a une autre source peut-être chez lui, qui nous parle peut-être plus facilement, qui est celle du désir d'amitié. Claude, il le dit à un moment, a des amis, il en est aimé et il les aime, d'un amour tout humain, et il a des facilités à l'amitié. C'est un sentiment qu'il a porté dans la vie, qui le soutient. Et il a une conception assez exigeante de l'amitié, c'est-à-dire que un ami, c'est à quelqu'un à qui on veut du bien en parole et en acte. À un ami, on donne tout. Et l'amour qu'il a pour Dieu se veut être un amour d'amitié. Tant et si bien que il va vouloir faire de Jésus son unique ami, son vrai ami, celui à qui il donne vraiment tout et qui lui donnera en retour. Mais il ne faudrait donc pas faire de Claude quelqu'un uniquement tendu vers la pureté du don désintéressé, quelqu'un de raide, c'est quelqu'un qui aime. Alors, il y a un dernier aspect peut-être dans cette volonté de Claude de tout donner au Seigneur, qui est l'aspect de réparation. Claude se sait, et de manière parfois déchirante, pécheur. Ce n'est pas un homme parfait, il le sait bien. Il l'exprime parfois de manière très radicale. Et en même temps, De nouveau, ce n'est pas une conscience raide ou complètement écrasée de son péché qu'il a. C'est une conscience du péché qui est toujours balancée par la miséricorde divine. Il se sait pécheur, mais il a toujours sous les yeux l'image du Christ qui vient le chercher, qui se donne pour lui. Et quand il parle de réparation, quand il parle de donner ou de sacrifier des choses pour Dieu dans sa vie, ce n'est jamais dans l'idée qu'il va payer sa dette. Celui qui paye la dette, pour lui, c'est le Christ. Mais il ne voit pas d'autre façon d'exprimer cet amour blessé. Il contemple le Christ qui se donne et il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et du coup, qu'est-ce que je dois faire ?» Ce grand désir de Claude de se donner va se concrétiser dans un vœu un peu étonnant qu'il va faire au milieu de sa grande retraite. Ce vœu, c'est d'être fidèle à toutes les constitutions des jésuites, à toutes les règles de la vie commune des prêtres, à toutes les règles qui régissent finalement la vie d'un jésuite de son époque et d'ailleurs d'aujourd'hui. Alors, peut-être pour préciser les choses, c'est vrai que les religieux par nature se lient par des vœux. Vœux d'obéissance, vœux de pauvreté, vœux de chasteté. Mais dans notre vie ordinaire, on est aussi lié par un ensemble de règles qui précise d'une façon ou d'une autre comment vivre et comment rendre actuel et pratique ces vœux. Et pour autant que les vœux nous engagent de manière forte, toutes ces règles ont des degrés d'importance très diverses. Elles sont toutes des voies vers la perfection, certainement, mais bon, nos supérieurs et nos directeurs spirituels ne feront pas toujours un fromage s'il y a une ou l'autre qui de temps en temps est laissée de côté. C'est pas ce à quoi on appelait, on est bien d'accord, mais il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et c'est là que Claude, finalement, vient nous interpeller un petit peu, ou plus qu'un petit peu d'ailleurs. Il va faire justement de l'accessoire une part de l'essentiel. Il va se dire, tout ce à quoi je suis appelé, toutes ces règles qui me sont données, je veux les respecter. Ce n'est pas un exercice d'ascétisme, ce n'est pas une discipline qu'il s'impose. C'est quelque chose, il le dit, qui le travaille depuis un certain temps. Ça fait partie de ce désir de se donner en toute chose, en tout moment. C'est une façon pour lui de présenter au Seigneur ce qu'il veut vivre avec lui. C'est une façon de demander aussi l'appui du Seigneur dans cette démarche, de le prendre à témoin. Quand il pense à cette idée de se rendre fidèle même dans les toutes petites choses, il a devant les yeux d'autres jésuites, des saints, des générations qui l'ont précédé, en particulier Saint Jean Berchmans, qui disait sur son lit de mort qu'il n'avait jamais rompu une règle de la Société de Jésus. Et chez Claude, ça suscite de la joie, ça suscite une envie de se donner ainsi. Il n'est pas dans une attitude où il se dit « Ouh là là, je suis un mauvais religieux, il faut que je durcisse les choses, que je resserre les boulons. » Non, ce qu'il veut, c'est trouver une façon de vivre en tout moment avec le Seigneur. De se donner en tout moment. Je pense que c'est important à ce point d'insister sur le fait que Claude, intérieurement, se sent complètement incapable de ça. C'est un peu paradoxal, mais s'il regarde ses propres forces, s'il regarde qui il est, s'il regarde ses craintes dont on parlait tout à l'heure, d'être trop attaché à ce qu'il rencontre dans le monde, d'être trop facilement pris par les compliments, forcément, il ne peut pas tenir ce qu'il s'impose là. Et donc, ce vœu ne prend sens que dans une confiance infinie qu'a Claude dans l'action du Seigneur en lui. Je parlais de cette volonté de Claude de se donner tout à Dieu, d'aimer Dieu, pas pour lui, pas pour ce qu'il en retire, pas même dans la prière, pas même dans la vie spirituelle. Il faut bien comprendre que chez Claude, le mouvement n'est jamais purement unidirectionnel. C'est toujours balancé par la confiance qu'a Claude que s'il se vide de lui-même, c'est pour que Dieu vienne habiter en lui. C'est pour que la grâce de Dieu vienne le soutenir en toute chose. Et donc, quand il se jette un peu à l'eau avec ce vœu, c'est en croyant que dans la piscine, il y a un maître nageur qui est le Seigneur, qui va le porter, qui va l'aider à continuer, qui va le maintenir dans la fidélité à laquelle il aspire. Ce serait faire injustice à Claude que d'en le voir uniquement ce mouvement qui part de lui-même. Il y a aussi cette confiance très forte dans le Seigneur. J'ai essayé de montrer comment la question de l'abnégation, de l'oubli de soi, d'un certain sacrifice des choses qui nous entourent, pour Claude, s'assimile à une façon d'aimer. Dans ces notes de troisièmement, il y a aussi quelque chose d'assez frappant, qui est comment Claude affine sa connaissance de qui est Dieu, de ce qu'est Dieu. Pour lui et pour les autres. Et cette connaissance de Dieu, ça vient souvent adoucir peut-être le portrait que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour Claude, c'est vrai qu'il a conscience de son péché, que, à l'invitation d'Ignace, il se voit parfois comme une pourriture. Ça peut nous étonner parce que finalement, il a quand même vécu une vie assez honorable jusque-là, mais cette vision très dure est balancée par des expressions quant à la miséricorde de Dieu qui sont tout à fait saisissantes. Claude ne peut pas douter que Dieu le veut auprès de lui. Il dit, quand il contemple, comme on est invité au début des exercices à contempler l'enfer, je peux pas croire, je peux simplement pas croire que Dieu dans sa miséricorde ne me veuille pas auprès de lui. Et chez Claude, il y a cette conviction bien ancrée que rien ne peut séparer l'homme de la miséricorde de Dieu. Il vit dans une époque où on se fait beaucoup de problèmes autour de l'idée de prédestination. Est-ce que certains hommes sont sauvés, d'autres pas, et est-ce que je fais partie des sauvés ou pas? En Claude, il y a une conviction intérieure que Dieu est avant tout miséricorde et le veut auprès de lui. Une conviction qui balaye les objections intellectuelles. Il y a aussi toujours dans cette connaissance de qui est Dieu pour Claude, en fait, un Dieu de tendresse qui se dégage. Je vous disais tout à l'heure, Claude, si ça ne tenait qu'à lui, voudrait renoncer à tout ce qui est consolation spirituelle, tout signe que Dieu lui adresse directement pour le soutenir. Claude s'en méfie un petit peu, il a peur de s'y attacher plutôt que de s'attacher à Dieu. Et en même temps, tout au long de sa retraite, tout au long des notes qu'il prend dans son troisième an, Dieu se révèle auprès de lui comme tendresse. À un moment, il se rend compte qu'il s'est un peu laissé attraper, que dans son oraison, il a ressassé des compliments qu'on lui avait faits, qu'il se corrige, d'abord durement, et puis en sortant du temps, il dit, mais ayant réalisé que j'avais surmonté la tentation, que le Seigneur m'avait accompagné, j'ai été envahi d'une douce joie, comme je n'en ai jamais connu après. Cette douce joie, c'est vraiment ce qui vient balancer la démarche parfois un peu inquiète de Claude. Il va l'exprimer ailleurs d'autres façons. Il va dire, dans telle contemplation, c'est la Vierge qui me reçoit dans ses bras. Quand il se pose la question de renoncer à ses amitiés terrestres, aux amis qu'il a, il dit, oui, je renonce à quelque chose qui m'est cher, mais c'est parce que il me semble que je m'en remets dans les bras de Dieu et que dans ses bras très doux, il y aura un abri pour moi. Claude est toujours dans ce balancier entre ce mouvement qui jaillit en lui de vouloir se donner et les bras de Dieu qui l'attendent. Un autre aspect de la connaissance de Dieu dans la retraite de Claude, c'est Dieu dans les petits. À un moment, Claude se pose la question, mais finalement, où est Dieu autour de moi? Où est-ce que je peux le rencontrer? Alors certainement dans l'oraison, dans la vie de prière, mais il dit, mais plus concrètement, autour de moi, où est-ce qu'il est? Alors, il identifie trois lieux que je vais prendre dans l'ordre inverse de ceux qu'il donne. Il dit, ben, finalement, il est présent partout, il est tout le temps là, et donc tout ce que je fais, c'est sous son regard. Et puis, il est dans le Saint-Sacrement. Il se dit, en fait, il faudrait peut-être que j'aille le visiter plus souvent. Mais la première chose qu'il relève, c'est Dieu est avant tout dans les petits autour de moi. Et si j'aime Dieu, j'ai à le visiter dans mes frères. Il y a, quand on lit pour une première fois les écrits de Claude, très clairement, il y a une espèce de tentation de la solitude, du retrait. Seigneur, le monde est plein de tentations, plein de choses qui sont belles et bonnes, auxquelles j'ai envie de m'attacher, et il vaudrait peut-être mieux pour mon salut à moi que je me replie sur moi, avec toi, juste nous deux. Et en même temps, quand il contemple ce qu'est l'amour de Dieu, il est réenvoyé à l'extérieur, vers ses frères. Il ne peut pas rester dans ce cœur à cœur ou cette tentation de la solitude avec Dieu. Il est en permanence renvoyé vers une autre forme d'amour qui est la charité. Un autre point sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, pour un esprit moderne, quand on dit tout donner à Dieu, n'aimer tout qu'en Dieu, ça peut évoquer une idée d'exclusivité. C'est-à-dire que si je donne tout à Dieu, je ne donne plus rien aux autres. Si j'aime Dieu seul, qu'est-ce que je fais de mes amours pour ma famille, pour mes amis, pour les gens que je rencontre et que je suis pourtant appelé à aimer? Comment je concilie ça? Claude a une très belle page où il dit finalement, notre esprit y pense effectivement par exclusion. Si je sens une fleur, pour reprendre son exemple, elle a une odeur. Et si je sens une autre fleur, elle a une autre odeur. Et je ne peux pas sentir une fleur qui récapitulerait toutes les bonnes odeurs du monde. Ça, c'est notre façon de fonctionner. On divise. Il dit finalement, en Dieu, si, comme le dit la théologie, il est la simplicité même, mais qu'il est aussi celui qui porte et qui crée et qui supporte tout, tout peut se retrouver. Et finalement, choisir d'aimer Dieu, ce n'est rien exclure, c'est tout retrouver autrement. Alors, à l'étape où il en est, au troisième an, il est peut-être encore plus dans le mouvement où je dois me séparer des choses pour trouver Dieu. Mais il y a déjà là une porte d'entrée chez Claude pour retrouver comment aimer les gens qu'il rencontre, comment aimer les gens avec qui il est en relation en Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans l'exclusion. Il est dans la communion. Peut-être que, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, l'essentiel pour Claude, c'est se vider soi-même pour être rempli de Dieu. Et nous discutions il y a un jour ou deux avec Guy et Xavier de comment concilier l'aspect parfois très ascétique de Claude avec la réputation de gentillesse, de politesse, d'amabilité qu'il avait avec les gens. Pour Claude, tous les efforts au quotidien pour se libérer de lui-même, ça n'a pas d'autre but que de s'appuyer sur Dieu au quotidien. Et très souvent, dans la liturgie, nous prions le psaume 118, qui parle des règles, des lois que Dieu nous donne, et qui toutes visent à notre bonheur. Pour Claude, se couler dans une attitude d'obéissance, c'est avant tout une façon de trouver la constance, de trouver la paix, la joie qui dure. Ce n'est pas un exercice raide. C'est une façon, d'une certaine façon, de libérer son esprit. Il n'a pas à choisir en permanence entre le bien et le mal, entre... Il suit ce qui lui est demandé, y compris l'obéissance religieuse, dont il disait que parfois c'était difficile. Il suit. Et se libérant l'esprit, il trouve une facilité. Alors, en entendant tout ça, c'est sûr que Claude peut paraître comme, on dirait dans la littérature, une âme d'exception. Une âme fine qui va à l'essentiel et qui non seulement y va, mais parvient à s'appuyer sur le Seigneur pour aller là où il veut aller. Et quand je me regarde, je me dis que je suis très différent de Claude. Que cette force et cette confiance, je ne l'ai qu'à dose homéopathique. Peut-être me faut-il être attentif à ce que disait l'article des Constitutions qui présente le troisième an. Le troisième an est un temps pour progresser dans l'oubli de soi et l'amour de Dieu. Pas pour l'acquérir, pour progresser. Et si Claude court sur le chemin, eh bien que du moins nous puissions y marcher petit à petit, pas après pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être d'abord chercher l'amour solide dont voulait Claude avec Dieu. M'interroger effectivement sur quel est le centre de ma relation à Dieu. Quel est mon point d'appui avec lui. Claude insistait sur le fait que finalement c'est au plus profond de son cœur qu'il trouvait cet appui. Il en parle à plusieurs endroits. À un moment, il contemple Jésus qui se donne dans la passion et Marie qui le laisse s'offrir et l'offre avec lui. Et il dit, comme je voudrais que mon cœur soit uni à ces mouvements-là. Premier lieu d'appui solide. Quand il réfléchit sur le fait que dans la prière, c'est parfois lui-même qui se cherche, il dit, oui Seigneur, je voudrais bien, je me contenterai de peu, je ne demande pas les consolations, les sentiments faciles, mais il dit, mais quand bien même est-ce que je ne te verrai plus, au plus profond de mon cœur, je te sentirai et ça me suffit. Alors, à un autre endroit, il parle de l'Eucharistie. Il dit, mon appui, ma force, ma consolation, ce sera que tous les jours, je peux te rejoindre. Tous les jours, tu me rejoins. Je ne compte pas sur moi, je compte sur ton appui. Et vraiment, il identifie l'Eucharistie comme un de ces lieux d'appui solide pour lui. Premier point, je pense que c'est vraiment cette exigence de solidité qui nous fait questionner nos appuis, nos béquilles spirituelles pour nous recentrer sur l'essentiel de notre relation au Seigneur. Tout en gardant vivante cette sensation énorme de confiance dans la miséricorde de Dieu qui animait Claude. Quand on contemple sa vie, on se dit que tout l'édifice ne tient pas s'il n'y a pas cette confiance. Peut-être le deuxième point, comment alimenter cette confiance en nous. Et puis, peut-être un point où, en fait, on peut être rejoint assez aisément, c'est dans cette attention au quotidien de Claude. Quand il dit « je renonce à tout pour Dieu, je donne tout, je donne ma vie », il ne pense pas, comme d'autres jésuites à l'époque, à partir au Canada pour se faire martyriser. Ce qu'il évoque, c'est au quotidien s'offrir. Ce que ça veut dire, c'est se lever le matin avec le réveil et au lieu de jurer sur le réveil, se lever en remerciant le Seigneur. C'est descendre au petit déjeuner, voir qu'il n'y a pas de pain, et au lieu de râler sur le frère qui aurait dû en acheter, aller en chercher soi-même. C'est arriver au boulot, se faire engueuler par le patron, et quand même sourire aux collègues qu'on voit juste après. Et ainsi de suite. Vous pouvez continuer la liste. C'est entrer dans c'est une manière un peu extraordinaire de vivre ce qui fait l'ordinaire. Faire de toute petite humiliation, de contrariété du quotidien, une occasion de resserrer notre union au Seigneur. C'était ça la voie que Claude avait choisie. Je vois que mon temps est plus ou moins achevé. Vraiment, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, je pense, de Claude, c'est cette balance, cet équilibre entre ce mouvement de don, un mouvement qui parfois est intransigeant, qui veut tout donner, qui ne veut rien garder pour lui, et en même temps cette confiance que Dieu se donne, qu'il veut des choses bonnes pour nous. Nous pouvons être prudent, mais fondamentalement, Dieu veut nous donner ce qu'il a de meilleur.
J'espère qu'il n'a pas manqué de pain au petit déjeuner ce matin. Mais vous voyez, en tout cas, c'est un vrai bonheur que de pouvoir d'avoir avec nous ces semaines et ce jour-ci. Vous voyez comment il est bon que notre chère compagnie à laquelle nous appartenons continue d'envoyer des jeunes frères pour continuer de découvrir cette belle figure de Claude. Il y a encore des trésors à continuer à accueillir, à partager et à faire profiter largement. Donc ce que nous te souhaitons aussi, Benoît, dans la suite du troisième an que tu vas poursuivre, eh bien, c'est de pouvoir rayonner ce que tu auras reçu ici auprès de tes co-tertiaires, ceux qui partagent le troisième an avec lui, mais plus largement aussi avec tous les compagnons, et les hommes et femmes vers qui tu seras envoyé. Merci à toi.